Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast crime. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire John List. John et sa femme Hélène vont se rencontrer tous les deux à l'université. John est une personne protestante qui pratique à fond la religion. Lorsque Hélène tombe enceinte, pour John, il est obligé qu'il se marie à elle. Mais après le mariage, Hélène va alors annoncer à John qu'au final, elle n'était pas du tout enceinte. Quelques années après, ils ont quand même 3 enfants ensemble qu'ils vont les combler de bonheur. John exerce le métier de comptable, mais malheureusement, par rapport à son comportement et son caractère d'être trop franc avec ses employeurs, il va souvent être viré. Malheureusement pour lui, il va encore perdre un job et à la suite de ça, il va postuler pour devenir vice-président dans une banque. John va obtenir ce job et pour la famille, c'était clairement quelque chose de super. Le job lui permettait d'avoir un énorme salaire et Hélène a demandé à tout simplement acheter un manoir, mais pas n'importe lequel, le manoir Brisknoll. C'est le plus cher de toute la ville de Westfield. Il comporte 19 chambres, assez grand pour toute sa famille. Malheureusement, le manoir est quand même très cher, malgré les gros revenus de John, et il va demander un prêt à sa mère Alma. Alma, qui n'a qu'un seul enfant, John, va alors décider de lui prêter son argent en échange d'avoir le 3e étage du manoir que pour elle seule, car elle a déjà 80 ans et elle n'a pas envie de vivre seule pour ses derniers jours. Malheureusement, John ne tient pas son job et un an après, John est viré. Il tombe alors dans une dépression. Toutes les économies de John, plus le prêt à sa mère, a conduit à sa faillite totale. Il est tombé dans la pauvreté et tomber dans la pauvreté en étant protestant, c'est un péché, en tout cas dans sa religion. Et pendant 5 ans, John va tout simplement décider de mentir sur son travail, à toute sa famille et même à sa propre mère. À la place d'aller au travail, il erre dans la ville et il pioche dans le compte bancaire de sa mère qui ne regarde pas du tout ses comptes. Ses enfants vont grandir dans un monde de plus en plus libre et ils ne vont plus croire forcément en Dieu. Patricia, qui a maintenant 16 ans, veut être comédienne. Puis Hélène, elle, tombe gravement malade d'une maladie qu'elle a tout simplement contractée lorsqu'elle était à l'université. Cette maladie est sexuellement transmissible. Et c'est simplement du coup en ayant couché avec pas mal de garçons à la fac. Et par rapport à cette maladie-là, malheureusement, Hélène est en phase terminale. Alors honnêtement, cette maladie-là, je n'arrive pas à bien la prononcer. C'est la silice tertiaire. Tout simplement, c'est une maladie qui ronge la peau, mais aussi qui infecte les organes internes. Et de plus, avec cette maladie-là, Hélène ne croit plus du tout en Dieu. Pour John, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Tout simplement, il veut débuter une nouvelle vie, repartir à zéro, car il est ruiné. Ses enfants ne le respectent pas, il ne croit plus en Dieu, sa femme est mourante, mais il ne peut pas se suicider. Sinon, il irait en enfer selon sa religion. C'est pour cela qu'il va alors organiser un plan pour changer de vie. Le 9 novembre 1971, John va déposer les enfants à l'école, puis revenir pour déjeuner avec Hélène. Il prend alors son café, débarrasse sa table et arrive derrière Hélène qui est assise dans la cuisine. Il la bat une balle en pleine tête. Hélène, évidemment, va tomber. Il place alors Hélène dans un sac de couchage et va traîner son corps jusqu'à la salle de bal, là où il va la laisser pour un petit temps. Puis il va monter à l'étage, retrouver sa mère qui va être extrêmement heureuse de voir son fils et va lui proposer de déjeuner avec elle pour avoir de la compagnie. John va accepter et une fois qu'elle va avoir le dos tourné, il va lui tirer dessus aussi. Mais il ne va pas toucher au corps de sa mère, mais seulement y mettre une serviette sur son visage, car il avait trop honte de voir le corps de sa mère dans cet état-là et encore plus son visage. Suite à ça, John redescend dans la cuisine et il va écrire tout simplement des lettres à ses proches, à la famille et aux professeurs des enfants. C'est assez bizarre, ça ressemble beaucoup à l'affaire du pont de Ligonnès si vous ne la connaissez pas. Dans ces fameuses lettres-là, il raconte simplement qu'ils ont dû partir par précipitation, voir un membre de la famille qui est extrêmement malade en Caroline du Nord. Il demande aussi dans ces lettres-là au facteur de ne plus livrer du courrier, mais aussi aux livreurs de journaux et de lait de ne plus laisser quoi que ce soit devant eux. En soi, il fait des décommandes pour ne plus être livré et pour ne pas attirer l'attention sur le manoir. Sa mère étant morte, il se décide alors à aller vider le compte bancaire et en retirant tout ce qu'elle avait dessus, il s'est rendu compte qu'au final, il ne lui restait que 2 000 $. Ce qui n'était pas fou pour son plan de recommencer une nouvelle vie et à ce moment-là, il commence à se poser des questions si son plan était quand même déjà mature ou s'il aurait dû encore attendre un petit peu. Cependant, il retourne chez lui, il se fait un petit sandwich tranquillement et à 13h, l'école de Patricia va appeler pour dire qu'elle est malade. John, lui, va alors décider d'aller chercher Patricia, tout content d'aller récupérer sa fille et une fois qu'elle va rentrer à la maison, il lui tire aussi une balle en pleine tête et va mettre le cadavre à côté de celui de sa mère. À la suite de ça, Frédéric rentre aussi et rejoint aussi sa mère. Ce que je vous ai pas dit, c'est que le nom des enfants, il y a Patricia, Frédéric et John Junior. Lui, John Junior, ne va pas être tué tout de suite, car il avait un match de foot et son père a décidé d'aller voir le match et même de supporter son fils, ainsi que de parler pendant le match à des connaissances et en mentant sur sa journée et sur son travail. John Junior, à son arrivée au manoir, va aussi prendre une balle, mais lui va survivre à la première balle. Alors John va lui tirer 9 fois dessus avant que son fils John Junior tombe. Il va alors mettre aussi le cadavre avec tous les autres dans la salle de bal. Et à la suite de ça, John, le père, va alors faire une prière pour que Dieu ouvre les portes du paradis à sa famille. C'est assez glauque quand même. John, enfin tranquille d'esprit, peut recommencer sa nouvelle vie. Il décide de rester un petit moment seul avec les 5 cadavres. Il nettoie la maison, il mange, il dort comme un bébé car ses problèmes sont enfin finis. Le lendemain, comme personne ne s'inquiète car il avait fait ses fameuses lettres, il fait alors une lettre de déclaration, une lettre d'aveu faisant 5 pages, expliquant son acte. Il sait très bien que c'est pas du tout bien, surtout pour sa religion, de commettre des meurtres, mais il explique que voilà, personne ne le respectait, plus personne ne croyait en Dieu. Sa femme était mourante, sa fille voulait devenir comédienne, c'était vraiment une honte pour lui, et qu'il voulait recommencer à zéro. Mais en plus de ça, il explique aussi au pasteur lui donner du travail et qu'il le fasse bien. Un peu culotté le mec. John va alors après allumer toutes les lumières de la maison, ainsi que la radio, en mettant de la musique classique pour ne pas attirer l'attention s'il n'y avait pas lumière, surtout en plein hiver. Il décide aussi de couper le chauffage, car le froid conserve les corps. John va alors disparaître en voiture à l'aéroport, et puis va laisser sa voiture là-bas pour que les enquêteurs soient sur une mauvaise piste, tout simplement. Il va retourner en ville, prendre un bus, puis un train pour Denver. À ce moment-là, il a eu une nouvelle carte d'identité, car à l'époque, on est quand même dans les années 71, il y avait très peu de vérifications, en tout cas aux États-Unis. Un mois après, le prof de Patricia d'art dramatique trouve ça quand même assez étrange que Patricia loupe autant de cours alors que pour elle, c'était vraiment son rêve de devenir comédienne. Il décide alors, avec un autre professeur, d'aller au domicile des listes pour savoir ce qu'il se passe. En arrivant, il frappe à la porte, mais personne ne répond. Pourtant, il y a de la lumière, de la musique, mais les voisins, eux, en voyant ce qu'il se passait, ont appelé les policiers en pensant que c'était des voleurs. Les policiers vont arriver sur place, vont alors dire aux deux professeurs de ne pas s'inquiéter et qu'ils allaient regarder ce qu'il se passe à l'intérieur. Une fois rentrés par une fenêtre qui était mal fermée, les policiers vont alors circuler dans le manoir où il fait très froid, très sombre, et vont sentir de plus en plus une forte odeur. À un moment donné, en s'éclairant avec leurs lampes, ils vont découvrir dans la salle de bal les 5 cadavres, puis ensuite, ils vont aussi trouver la lettre d'aveu de John. Dans cette lettre aussi, il dit aux policiers ou à ceux qui vont découvrir les corps de ne pas oublier le 3e étage pour aller chercher la Madre Liste. Si on peut faire un petit rapprochement avec Xavier Dupont de Ligonnès, lui, il n'a pas laissé de lettres, en tout cas pour le meurtre qu'il a commis, si c'est vraiment lui. À partir de ce moment-là, le visage de John va être diffusé partout. En août 1972, soit 10 mois après la découverte des corps, le manoir va prendre feu. Sûrement un acte criminel. Ce qui permet aussi de faire une découverte dans la salle de bal. Il y avait un plafond en vitrail Louis Confort estimé à plus de 100 000 $. Mais ça, John ne le savait pas. Cela aurait pu éviter qu'il tue toute sa famille et pouvoir rembourser une partie de ses dettes. Malheureusement, John, pendant 18 ans, va être recherché mais va être introuvable jusqu'à temps que John Walsh redécouvre l'enquête. Il aime les affaires comme ça, car tout simplement, son fils a été assassiné et décapité par un tueur en série, et ça sera mon prochain podcast. Il utilise son émission avec un sculpteur pour trouver John List, soit devant 22 millions de téléspectateurs dans son émission Most Wanted. Grâce à cette diffusion, pas mal de témoins ont témoigné en parlant de leur voisin qui ressemblait énormément à ce portrait. Il s'appellerait Bob Clark Richmond. Il est marié et il refuse d'avouer que c'est lui. Malheureusement pour lui, il va y avoir une comparaison aux empreintes digitales entre ce fameux Bob Clark Richmond et John List, et ça va matcher à 100%. Le procès va alors s'ouvrir le 2 avril 1990, mais son procès va être extrêmement court car il avait déjà avoué ses meurtres sur une lettre. John, lui, à l'époque, ne pensait jamais se faire attraper. C'est pour ça qu'il avait décidé de faire des petits aveux sur papier. Malheureusement pour lui, il va avoir 5 peines de prison à vie, car à l'époque, la peine de mort n'existait plus. Le 21 mars 2008, John List va mourir en prison à l'âge de 82 ans. Cette histoire pour moi me fait énormément penser à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, tout simplement parce que les meurtres se ressemblent plutôt pas mal. Ils ont été à peu près tués de la même manière. Il y a eu des lettres pour la famille, pour les professeurs, pour tout l'entourage. La voiture aussi, de la même façon, il va l'abandonner puis partir autrement ailleurs. Et aussi actuellement la disparition du père de famille, Xavier, qui n'est toujours pas retrouvé. C'est pour ça que pas mal d'experts en criminologie pensent que Xavier a pu énormément s'inspirer de l'histoire de John List, car honnêtement c'est clairement un copier-coller de ce qui s'est passé à Nantes. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer ce podcast et surtout à venir sur Instagram pour me donner vos nouvelles idées de podcast. En tout cas, nous on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.